Nous avons constitué une masse de manœuvre où se mêlent nos soldats et les soldats britanniques et qui, par sa mobilité, peut barrer partout la route à l'invasion.
Bonjour, dans le fil de l'histoire aujourd'hui, troisième épisode consacré à la drôle de guerre 1939-1940. La drôle de guerre fut-elle vraiment si drôle? C'est la question que nous nous posons toute cette semaine avec l'historien Fabrice Grenard. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué l'offensive de la Sarre, menée par la France en septembre 39, mais qui vite a tourné court. La Pologne, que la France et la Grande-Bretagne s'étaient engagées pourtant à soutenir, est vaincue par l'Allemagne et l'Union soviétique. À partir de fin septembre 1939, la France s'installe dans une stratégie attentiste qui ne bougera pas jusqu'en mai 1940. Deux armées se font face, chacune campée derrière sa ligne de défense, la ligne Maginot pour les Français. Cette ligne discontinue, d'environ 700 km, doit son nom à André Maginot, le ministre de la guerre qui, en 1930, en avait initié le financement. De l'autre côté, la ligne Siegfried, qui s'étend depuis le sud de l'Allemagne à la frontière suisse jusqu'au nord, près de la frontière néerlandaise. La ligne Siegfried a été construite sur ordre d'Hitler en 1938, en violation complète du traité de Versailles. Maintenant que la Pologne est vaincue et est en train de se faire dépecer, l'armée allemande peut désormais se concentrer sur son front occidental. Mais entre la France et l'Allemagne, pendant 8 mois, les armes se taisent. C'est la drôle de guerre.
France Inter. Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. Pour laver le linge, voici le moment. On ira prendre notre linge sur la ligne Siegfried. À nous le beau linge blanc.
On ira pendre notre linge sur la ligne Siegfried, c'est ce que chantent Ray Ventura et ses collégiens en septembre 1939. En réalité, les Français n'iront jamais sur la ligne Siegfried. C'est la drôle de guerre. Une période qu'on connaît bien ou qu'on croit connaître grâce aux photos et aux films réalisés par les services de propagande dans les deux camps. Ces images témoignent de la vie sur les lignes fortifiées, des manœuvres de la troupe, mais aussi, plus insolites en temps de guerre, des loisirs des soldats. Jeux de cartes, cinéma, lecture, sport, bricolage, spectacle.
Cette confiance qui anime nos hommes et maintient intact leur bonne humeur. Confiance et bonne humeur que nos meilleurs artistes se font un généreux devoir d'aller entretenir dans la zone même des armées.
Et avec ça, on ira jusqu'au bout. Voilà.
Joséphine Baker, que bien sûr vous avez reconnu. Ce que ces images ne disent pas, c'est l'ennui et la déprime qui gagnent peu à peu le moral des troupes et vont s'accentuer au fil des mois. Résolus au moment de la mobilisation à se battre contre l'agresseur, les soldats, pris dans l'inaction et la monotonie de cette guerre sans combat, ne comprennent pas ce qu'ils font là à attendre. La discipline se relâche. Certains soldats font venir leurs femmes au front, d'autres se mettent à boire. « Je ne sais quoi penser de tout cela », écrit le poète et sergent Robert Desnos, tandis que l'écrivain Paul Nizan se demande si cette affaire ne va pas tourner à la guerre de 100 ans. « Pas un coup de canon, pas un coup de feu, nulle part », constate le lieutenant Claude Jamais. « La guerre de 39 n'aura peut-être pas lieu ». Fabrice Grenard, cette drôle de guerre ne tue pas, donc, mais elle n'est franchement pas drôle. Elle mine les esprits. Jean-Paul Sartre, qui la vit de l'intérieur, puisqu'il est lui-même soldat dans cette drôle de guerre, il porte un regard un peu extérieur, forcément, en tant que philosophe, et il parle d'une guerre à la Kafka.
Oui, effectivement, parce que si la mobilisation s'est bien passée, si la majorité des mobilisés étaient prêts à faire son devoir, eh bien, le fait qu'aucun combat ne se développe sur le front de l'Ouest déclenche une véritable crise morale au sein de l'armée. Si vous voulez, tout ça perd de son sens, en fait. Surtout que, c'est un détail peu connu, mais qui va avoir son importance, après avoir vaincu la Pologne, Hitler va faire des propositions de paix aux Français et aux Britanniques, au début du mois d'octobre 1939. En fait, c'est une manœuvre, si vous voulez. Il n'est pas vraiment dans l'intention d'Hitler de négocier la paix. C'est une sorte de manœuvre pour endormir un petit peu le camp allié, mais qui
et
va avoir
aussi des, pour le diviser.
Pour le diviser, et qui va avoir des effets très délétères, parce que en repoussant les offres d'Hitler, en prolongeant la guerre, c'est bien la France et la Grande-Bretagne qui apparaissent comme ceux, si vous voulez, qui veulent faire la guerre. On voit des résurgences du discours pacifiste, voilà. Et beaucoup de soldats se demandent finalement à quoi bon cette mobilisation, à quoi bon effectivement attendre comme ça sans que rien ne se passe sur le front de l'Ouest. Et donc on voit bien que à partir de l'automne et surtout au cours de l'hiver 1939-1940, l'indiscipline progresse. Lorsqu'on lit les journaux des soldats, on voit bien que l'ennui domine. D'ailleurs, vous aviez cité the funny war, c'est une formule britannique, mais on parle aussi de the bore war, c'est-à-dire la guerre de l'ennui, voyez, pour qualifier cette période. Et puis surtout, les conditions de vie des soldats sont difficiles au cœur de l'hiver. Le ravitaillement est compliqué, il fait très froid. On les force du coup à faire des manœuvres un peu inutiles alors qu'il y a de la neige, qu'il y a du gel.
Oui, il y a quelque chose d'absurde dans cette guerre. Sartre parle de guerre à la Kafka. On pense un peu à Dino Buzzati, Désert des Tartares. Il y a Julien Gracq, l'écrivain qui écrit son fameux roman Un balcon en forêt. Il y a quelque chose un peu d'étrange qui endort un peu les esprits.
Les Français étaient prêts à faire leur devoir, à défendre un pays susceptible d'être agressé, mais en même temps, il n'y a pas véritablement d'agression qui se développe. La France elle-même ne prend pas l'initiative, d'où cette crise morale que l'on constate très bien au cœur de l'armée française au cours de l'hiver 39-40.
Nous n'avons cessé de renforcer considérablement nos formidables positions par la multiplication des ouvrages et des lignes fortifiées. Pour gagner, l'ennemi croyait n'avoir de meilleures cartes que notre faiblesse, notre lassitude avant même l'effort, nos peu solides unions. La résolution, le béton et la force des alliés n'ont pas fini de le surprendre. La tête froide et les nerfs détendus, confiante parce que consciente, la France travaille dans l'ordre et avec le même calme aux travaux qui préparent le succès de ses armes et aux travaux qui préparent les quiétudes de la paix.
Et la ligne Maginot, Fabrice Grenard, la France, est-ce qu'elle est vraiment protégée par cette ligne Maginot ? Aujourd'hui, c'est une expression qui veut dire un peu avec ironie, quelque chose qui ne sert à rien, quoi.
Les Français, en tout cas, en 1939, le croyaient. Mais parce qu'on reste sur une conception de la guerre très liée à ce qui s'était passé en 1914-1918. Ces grandes offensives suicidaires qui n'avaient servi à rien. Et cette ligne Maginot, construite depuis le milieu des années 30, est censée pouvoir, sinon repousser, au moins ralentir une offensive allemande pour permettre ensuite de mettre en place les conditions d'une contre-offensive. Et ça montre bien aussi que du côté français, la stratégie mise en place est une stratégie défensive en réalité. La France doit se défendre, mais ne pas être l'agresseur. Et du coup, toute la stratégie, c'est de se dire que finalement, l'armée française, elle pourra tenir si les Allemands attaquent, comme elle avait tenu en 14 sur la Marne, comme elle avait tenu en 1916 à Verdun, et en tenant dans des conditions en plus meilleures que lors du dernier conflit mondial grâce à la ligne Maginot, ça pourra permettre ensuite de mettre en place une contre-offensive qui, elle, pourrait être victorieuse.
Merci Fabrice Grenard, on poursuit cette discussion avec vous dans le prochain épisode. Nous verrons comment les Français, à l'arrière, vivent cette drôle de guerre.